Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit de Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 11 décembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et d'abord les titres du journal de ce jeudi. Les militants anti-nucléaires s'inquiètent fortement de la possibilité que l'Australie accueille prochainement des armes nucléaires transportées par des installations militaires américaines dans le cadre de l'accord AUKUS. Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, et son homologue britannique, John Healey, se sont rendus au Pentagone aux États-Unis pour la première réunion ministérielle AUKUS avec le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth. Les ressortissants australiens se rendant aux États-Unis devront divulguer leur historique d'activité sur les réseaux sociaux des 5 dernières années, conformément à un nouveau plan de la Maison Blanche. Et on passe au journal. Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, et son homologue britannique, John Healey, se sont rendus au Pentagone aux États-Unis pour la première réunion ministérielle AUKUS avec le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth. Avant leur rencontre, les trois ministres ont salué les récentes évaluations favorables à l'accord AUKUS, en vertu duquel les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie s'engagent à fournir une flotte de 8 sous-marins nucléaires aux forces armées australiennes. Pete Hegseth a déclaré que les États-Unis restaient pleinement engagés dans le partage de technologies militaires avec leurs alliés proches et dans la construction d'une paix durable grâce à leur puissance militaire dissuasive. Richard Marles s'est dit impatient de voir les trois responsables de la défense travailler ensemble sur les prochaines étapes de la réalisation des objectifs de l'AUKUS.
This is a massive project and there is so much more to do and it's really important that we are looking at the ways in which we can now get on with this and deliver it. And I think delivery is very much the focus of the conversation that we will be having today. I'm very excited about what we can do together, the progress that we're making, but the challenges that we both need, all of us need to grab hold of.
Les militants antinucléaires s'inquiètent fortement de la possibilité que l'Australie accueille prochainement des armes nucléaires transportées par des installations militaires américaines dans le cadre de l'accord AUKUS. La semaine dernière, de hauts responsables du ministère de la Défense ont déclaré devant le Sénat que l'Australie ne demanderait pas aux États-Unis de déclarer la présence d'armes nucléaires lors de l'utilisation de bases australiennes. Dave Sweeney est le cofondateur de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. L'ICAN milite en faveur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires.
That would still allow nuclear-powered vessels. It would not allow nuclear-armed ones. That's what we've been told as the Australian People AUKUS is about, and the government must sign because we are seeing what seems a very dangerous arc and erosion towards the normalisation of weapons of mass and indiscriminate destruction.
Un porte-parole du gouvernement a déclaré sur SBS que les États-Unis ne stationnent pas d'armes nucléaires en Australie, ce qui constituerait une violation du traité sur la zone exempte d'armes nucléaires du Pacifique Sud. Cependant, il a précisé que le gouvernement respecte la politique américaine consistant à ne ni confirmer ni infirmer la présence d'armes nucléaires à bord des aéronefs et navires en visite. Le Premier ministre Anthony Albanese a salué l'ouverture par son gouvernement de 137 nouvelles cliniques de soins d'urgence offrant des traitements gratuits aux personnes titulaires d'une carte Medicare. Le Premier ministre a inauguré une nouvelle clinique à Marrickville, dans la banlieue ouest de Sydney, en compagnie du ministre de la Santé, Mark Butler. Anthony Albanese a déclaré que cette initiative s'inscrivait dans le cadre du plan plus vaste de son gouvernement visant à rendre les soins de santé gratuits et facilement accessible.
This is one of 137 now we're rolling out right around the country. And more than a couple of million Australians have benefited from urgent care, getting the care that is needed when it's needed for free. In addition to that, the latest figures show that our tripling of the bulk billing incentive is leading to more free healthcare and strengthening Medicare.
L'ancienne commissaire nationale à l'enfance, Anne Hollands, plaide pour la création d'une commission de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance afin d'assurer une supervision nationale du secteur. Une enquête sur les prestataires de services de garde d'enfants a révélé que des défaillances systémiques au sein du secteur ont causé des préjudices évitables aux enfants. L'enquête a également entendu des appels à la création d'un ministère de l'enfance afin de garantir la responsabilité nationale dans l'application d'une série de lois et de mesures récemment adoptées pour protéger les enfants contre les abus. La directrice générale du Conseil australien de l'apprentissage et de l'accueil de la petite enfance, Anne Hollands, affirme que la réglementation ne peut être laissée à la charge de prestataires déjà sous-financés.
We need government accountability to fix the gaps in the scaffolding, to build national consistency across the Federation, and to ensure that we have an ECEC system for Australia that is focused on the key elements based on evidence that will promote the safety, rights and best interests of children.
De nouvelles données de l'Institut de Kiel montrent que l'aide militaire à l'Ukraine a chuté au second semestre de cette année, la baisse des contributions européennes ne parvenant pas à compenser le manque à gagner américain. Début 2025, le président américain Donald Trump a réduit le soutien américain, incitant l'Europe à intervenir et à s'engager à verser près de 20 milliards d'euros entre mars et juin dernier. Cependant, les contributions européennes ont chuté à seulement 8 milliards d'euros entre juillet et octobre. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, affirme que l'Union européenne prévoit d'utiliser les avoirs russes gelés pour fournir à l'Ukraine 90 milliards d'euros au cours des deux prochaines années.
Now we are working on the fine-tuning solution to find legal and technical solution that could obtain the agreement of all of at least the qualified majority of the member states. The European Commission is doing a very good job, is working very closely with all the national governments, and I think we are very close to obtain a solution.
La chaîne de télévision publique islandaise RUV a annoncé que le pays ne participerait pas au concours Eurovision de la chanson en 2026, devenant ainsi le cinquième pays à se retirer après la qualification d'Israël. L'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande et la Slovénie avaient déjà annoncé leur retrait de la plus grande compétition musicale en direct au monde la semaine dernière suite à de vives critiques de la guerre menée par Israël à Gaza. Les membres de l'Union européenne de radiodiffusion devaient voter sur de nouvelles mesures visant à lutter contre les irrégularités présumées lors des votes des éditions précédentes, mais les organisateurs du concours ont déclaré qu'un vote n'était pas nécessaire, ouvrant ainsi la voie à la participation d'Israël. Le directeur de l'Eurovision, Martin Green, a indiqué qu'environ 35 pays devraient participer en 2026. L'Australie a enregistré le plus grand nombre de décès d'autochtones en détention depuis plus de 40 ans. Selon les chiffres officiels, 33 aborigènes et insulaires du détroit de Torres sont décédés en détention à travers le pays en 2024 et 2025. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis 1979-1980, portant le total à 617 personnes depuis la commission royale d'enquête de 1991 sur les décès d'autochtones en détention. Samantha Bricknell, responsable de la recherche à l'Institut australien de criminologie, explique que cette hausse est principalement due aux 9 décès enregistrés en Nouvelle-Galles du Sud en 2024-2025. La coroner de l'État, Teresa Harding, a souligné que le nombre de décès autochtones dans les prisons de Nouvelle-Galles du Sud en 2025 avait atteint 12 en octobre, qualifiant ce chiffre de cap profondément alarmant. L'interdiction de l'âge minimum sur les réseaux sociaux en Australie a suscité un vif intérêt international, alimentant les débats sur des mesures similaires à l'étranger. L'annonce de cette interdiction a fait la une des journaux internationaux hier, certains médias s'interrogeant sur la possibilité que l'Australie crée un précédent pour d'autres nations. Face à la tension mondiale croissante portée à cette réforme, la Malaisie et le Danemark ont fait part de leur intention de suivre cet exemple en 2026. Les ressortissants australiens se rendant aux États-Unis devront divulguer leur historique d'activité sur les réseaux sociaux des 5 dernières années, conformément à un nouveau plan de la Maison-Blanche. Cette nouvelle règle concerne tous les ressortissants des pays pouvant demander une exemption de visa en ligne, à savoir l'Australie, la France, le Japon, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. Cette nouvelle règle aligne les pays sur ceux qui ne sont pas éligibles à l'exemption de visa. Les demandeurs devront également fournir leur numéro de téléphone des 5 dernières années, leur adresse électronique des 10 dernières années, ainsi que les coordonnées des membres de leur famille. La proposition américaine est ouverte à la consultation publique jusqu'au début du mois prochain, selon Camilo Montaya Calvez, expert en immigration pour CBS News. Cela pourrait dissuader les fans de foot de se rendre aux États-Unis pour la Coupe du Monde.
The proposed changes could negatively impact tourism here to the U.S., especially months before the U.S. hosts the World Cup alongside Canada and Mexico next summer.
Les habitants de Coolwong, petite ville côtière de la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud, évalue les dégâts causés par un violent feu de brousse qui a détruit 16 maisons. Plus d'une trentaine de maisons ont été ravagées par des incendies en Tasmanie et en Nouvelle-Galles du Sud la semaine dernière, dont un incendie qui a coûté la vie à un pompier. Des représentants de l'aide juridique seront sur place demain vendredi afin d'aider les habitants à s'orienter dans leur démarche auprès des assurances concernant leurs droits de locataire et les aides gouvernementales. S'adressant au journaliste Lee Ballock, une habitante a déclaré se sentir chanceuse d'avoir encore sa maison.
Very blessed when you see the devastation of those and some of the stories of some of the people. There have been evacuations in the past, so we knew that the up the top could go. We felt safe with the railway line because that's our escape. And that house should not have burnt down really. That was really, if there'd been a fire truck here, that wouldn't have burnt down.
On passe à la météo pour ce jeudi en Australie. Perth, 30 degrés, Adélaïde, 32, Melbourne, 22, Hobart, 20, Canberra, 32, Sydney, 23, Brisbane, 29, Darwin, 34 et à Alice Springs, maximale de 42 degrés. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. 13h15 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. On passe maintenant au journal des sports et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet.
Journal des sports et on débute avec du football et la Ligue des Champions, nouvelle journée donc entre hier et cette nuit, nouvelle journée de Ligue des Champions, le point sur les matchs avec Salih Diouf et quelques belles affiches.
Elle opposait le Real Madrid à Manchester City, deux Cadors, deux clubs qui ont déjà remporté cette compétition, mais il y a un de ces Cadors qui ne va pas très bien, en l'occurrence le Real, qui traverse une crise depuis plusieurs semaines, une crise qui va perdurer d'ailleurs, puisque les Merengues ont perdu 2-1, un match qui s'est joué sans Kylian Mbappé, resté sur le banc toute la rencontre, car il souffre d'un genou, et pourtant c'est le Real qui a ouvert le score par l'intermédiaire de Rodrigo. Le Brésilien était revanchard ce soir, car il a été très rarement titulaire cette saison, mais l'état de grâce n'a pas duré longtemps puisque le jeune O'Reilly a égalisé pour les Citizens. S'en est suivi une faute grossière de Rudiger dans la surface, pénalty sifflé dans la foulée, transformé par Erling Haaland. Les joueurs du Real ont eu le droit à une bronca de la part du stade Santiago Bernabéu au coup de sifflet final, et il faudra surveiller la Maison Blanche très attentivement dans les prochaines heures parce que c'est une défaite dont Xabi Alonso, le coach du Real Madrid, ne pourrait pas résister 6 mois seulement après sa prise de poste. Le Paris Saint-Germain, le champion d'Europe en titre, se déplaçait sur la pelouse de Bilbao. Score final 0-0, malgré la pression insistante dans la surface adverse des Parisiens. Arsenal a été clinique en revanche en Belgique et Gunners ont battu Bruges 3-0. Le Benfica se donne de l'air avec une victoire à domicile face à Naples. Les hommes de José Mourinho comptabilisent désormais 6 points. Match nul, 2-2 pour Dortmund face à Bodo Glimt. Le Guinéen Serhou Guirassy n'a pas marqué ce soir. Même score dans le match entre Leverkusen et Newcastle, et la Juve a battu l'équipe de David Luiz 2-0. Et au classement, Arsenal domine et se détache avec 18 points. Le Bayern Munich et le PSG complètent le podium. Et en bas du classement, l'Ajax d'Amsterdam n'est plus bonnet d'âne. Ils ne sont plus derniers mais 18e. Villarreal et Kairat sont dans l'ordre 35e et 36e. 36e, c'est la dernière place.
Salut Diouf. Donc pour RFI, on revient également sur la victoire de Monaco 1-0 face au Galatasaray, une très belle victoire donc des Monégasques. Reportage de Thomas de Saint-Léger.
Service minimum, effet maximum. Monaco arrache les 3 points dans un match qui était loin, loin d'être gagné d'avance. Les Monégasques ont d'abord su faire le dos rond face aux assauts des joueurs de Galatasaray en première période, avant de prendre progressivement l'ascendant, techniquement, physiquement, surtout au retour des vestiaires. Zakaria, le capitaine, a d'abord eu la balle du 1-0 sur penalty. Il a tiré sur le gardien adverse. Balogun, Follarin Balogun, l'attaquant américain, a lui aussi manqué deux très grosses occasions avant de se rattraper, de transformer la troisième à la 68e minute de jeu à la suite d'un cafouillage dans la surface stambouliote. Le but du courage d'une équipe qui n'a pas encore résolu tous ses problèmes actuels, mais qui a su se montrer unie, solidaire, et qui aura gagné le droit d'être de nouveau encouragée par ses supporters, des supporters boudeurs et silencieux au coup d'envoi, beaucoup plus joyeux au coup de sifflet final.
Thomas de Saint-Léger. Allez, on continue sur le football. Et une première en Allemagne, le RB Leipzig, donc le Red Bull Leipzig, club de Bundesliga, aura une nouvelle direction. Et pour la première fois en Bundesliga, c'est une femme. Des explications de Pascal Thibault.
Historique, le mot revient souvent pour commenter la nomination de Tatjana Henny à la tête du club de Bundesliga RB Leipzig. L'ancienne internationale suisse, qui était professionnelle durant environ 20 ans, a depuis consacré sa carrière au football féminin, travaillé à sa plus grande visibilité et à sa reconnaissance. La Suissesse a été active durant 2 décennies au sein de l'UEFA puis de la FIFA. Tatjana Henny a ainsi été chargée de l'organisation des Coupes du Monde de football féminin en Allemagne en 2011 et au Canada en 2015. Elle a ces dernières années occupé des responsabilités au sein de la Fédération Suisse avant de travailler aux États-Unis. Cette pionnière du football féminin deviendra en janvier la première femme à diriger un club de Bundesliga en Allemagne. Le RB Leipzig, fondé en 2009 en Saxe par le géant autrichien des boissons énergisantes Red Bull, évolue en Bundesliga depuis près de 10 ans. Il a remporté 2 Coupes d'Allemagne et occupe actuellement la 2e place du championnat derrière le Bayern Munich. Les instances du football allemand et les clubs restent dominés par les hommes, même si quelques femmes y ont obtenu des postes de responsabilité. Certaines, très rares, ont dirigé des clubs de 2e ou 3e division.
Pascal Thibault pour RFI. Et direction le handball et la Coupe du monde féminine de handball qui se déroule aux Pays-Bas et en Allemagne. Et la France qui sort son épingle du jeu, comme nous l'explique Christophe Paget.
L'équipe de France féminine vient de battre le Danemark 31-26. C'était à Rotterdam et les championnes du monde en titre se qualifient du même coup pour les demi-finales. La pivot Sarah Bouktit a été élue joueuse du match, 8 tirs sur 8. Elle explique que les Françaises voulaient se reprendre après la défaite du dernier match du tour principal contre les Pays-Bas.
Ouais, exactement. Ben, on a bien préparé le match et on s'est aussi dit que dans le comportement, dans le body language, il fallait changer quelque chose. Il fallait vraiment qu'on montre qu'on a du cœur et ça vient des tripes. On parle plus de handball parce que si on est ici, c'est qu'on a le niveau. Dès le début du match, on savait qu'il fallait les enterrer. Il fallait leur laisser vraiment aucune chance d'espérer quoi que ce soit dans ce match. Je pense que c'est ce qu'on a fait. On a été devant du début à la fin du match et c'est super. Elles ont vite baissé la tête et on s'est dit aussi qu'il fallait surtout pas leur laisser juste un petit espoir de revenir. On a montré, je pense, aucune fébrilité, une envie exceptionnel, tout le monde était à son meilleur niveau et c'est génial.
Sarah Bouktit, vendredi les Bleus affronteront l'Allemagne pour une place en finale.
Christophe Paget pour RFI. Allez, un dernier mot de cyclisme. La grande star du cyclisme africain, Birman Girmay, a changé d'équipe. Il se dirige donc maintenant vers l'équipe NSN, comme nous l'explique Baptiste Leduc.
La vedette du cyclisme africain était présente ce mardi à Barcelone lors de la présentation de la nouvelle équipe NSN Cycling Team qu'il vient de rejoindre pour 3 ans. Le recrutement du sprinteur de 25 ans, vainqueur du classement par points et de 3 étapes du Tour de France en 2024, démontre les ambitions de cette nouvelle équipe qui compte parmi ses responsables l'ancien footballeur espagnol Andrés Iniesta. Hier, Binyam Girmay s'est montré très enthousiaste à propos de ce nouveau défi.
Après 5 années chez Intermarché, Venti, c'est un nouveau chapitre. Avec cette équipe particulièrement, je vois une très belle opportunité. Je pense que cette équipe va m'aider à progresser et à relever de nouveaux défis. C'est un honneur. Il y a de grandes attentes, tant de ma part que de celle de l'équipe. Nous sommes impatients de commencer la saison. Nous voulons prendre du plaisir et progresser autant que possible ensemble. 2024 a été ma meilleure saison. J'espère que le départ de la saison prochaine à Barcelone nous permettra de faire encore mieux. Nous visons toujours plus haut.
C'était Birman Girmay, donc le cycliste érythréen, la star, vraiment la grande star du cyclisme africain. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS. À tout de suite.
Vous écoutez le programme en français. Eh bien, comme chaque jeudi, c'est maintenant l'heure de vous présenter le journal de l'économie. Et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet et de Nicolas Perpich.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, il est temps de parler économie aujourd'hui avec notre spécialiste en la question, Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Et on va parler de quelque chose qui touche presque tout le monde, si ce n'est tout le monde. Les gouvernements fédéraux qui a annoncé que bien les rabais sur vos factures d'électricité vont s'arrêter.
Oui, voilà, malheureusement, on est presque en fin d'année là, donc le gouvernement était obligé de dire si ça allait continuer ou pas, et malheureusement pour nous tous, la réponse c'est non. Alors le trésorier Jim Chalmers, c'est lui qui a annoncé ça, que en fait les rabais ne vont plus continuer après la fin de cette année, donc 31 décembre, c'est fini. C'était au début c'était $300 pour chaque domicile et aussi pour les petits commerçants, ça c'était en 2024. En 2025, cette année-là, c'était $150. Donc ça a aidé les gens quand même, c'était pas mal. Mais Jim Chalmers, il a expliqué que tout ça, c'est que vraiment le gouvernement a décidé d'aider dans une façon différente. Donc, par exemple, il y a des... Il y a d'autres mesures. Par exemple, ils ont coupé, ils disent qu'ils ont coupé les impôts. Il y a des changements à Medicare. Il y a des changements pour le prix des médicaments, donc le Pharmaceutical Benefit Scheme. Et ils disent que tout ça, en fait, ça va aider plus que les rabais, que les gens peuvent utiliser l'argent qu'ils vont économiser à cause de ça pour payer les factures d'électricité, aider avec d'autres pressions financières. Mais bon, en même temps, c'est peut-être vrai, mais c'est sûr que les gens aimaient bien avoir des factures qui étaient réduites par $300 et après $150. C'était quelque chose de facile parce que c'est vraiment une grande question politique aussi. Le prix de l'électricité, des factures ici, c'est énorme parce qu'ils avaient, le gouvernement avait promis de réduire les factures, que l'électricité, l'énergie allait coûter moins cher. Et l'opposition, les Liberals qui disent depuis longtemps, non, ça monte. Et tout ça aussi, ça fait partie des débats autour, autour du changement climatique et de l'énergie renouvelable. Donc, c'est pas juste une facture, c'est bien plus que ça.
Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que je pense qu'on avait dû le dire à l'époque, quand il y a une aide ponctuelle comme ça, elle est souvent vouée à être arrêtée à un moment ou à un autre, et quand ça s'arrête, enfin, on s'habitue assez rapidement quand même à une aide. Et quand ça s'arrête, ça devient tout de suite un peu plus compliqué pour tout le monde.
Voilà, exactement. Ça devient compliqué pour le gouvernement d'essayer d'expliquer ça. Donc, c'est pour ça qu'il a trouvé, on aide dans une façon différente. Mais il y a quand même des faits. Et un des faits, c'est que, selon le Bureau australien des statistiques, le prix de l'électricité est sauté par 37% dans un an. Donc ça, c'est beaucoup quand même, c'est énorme. Et aussi, si on regarde une autre chose, c'est que vraiment, c'est les locataires qui sont les plus frappés. Comme toujours, c'est les gens avec moins d'argent ou moins de stabilité qui sont frappés le plus. Donc c'est difficile à expliquer, que même si on donne 150 ou $300 de plus aux gens, si les factures montent par plus qu'un tiers, tout ça, ça devient beaucoup. Donc, on peut vraiment pas dire que cette crise du coût de la vie s'est améliorée.
Ouais, alors, on va faire un lien parce qu'on va dire que c'était pas un cadeau, quelque chose qui n'est toujours pas non plus un cadeau, en tout cas pas un cadeau de Noël, c'est la Banque Centrale qui, alors, on peut le voir de deux façons, le taux d'intérêt n'augmente pas, mais surtout, il diminue pas, donc, c'est pas vraiment un cadeau pour les gens par rapport à leur mortgage, etc., quand on sait que tout le reste, et on vient d'en parler il y a quelques instants, augmente.
Oui, voilà, tout à fait. Donc, c'est une pause. Voilà, ils n'ont pas levé le taux d'intérêt, ils n'ont pas baissé. Donc, ça reste à 3,6%. La banque a décidé qu'il ne faut rien faire pour le moment. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas payer plus, mais en même temps, on n'a pas un peu plus d'argent de poche avant Noël. Donc, en fait, le chef de la Banque centrale, Michelle Bullock, elle s'appelle, elle a dit qu'en fait, la banque serait prêt à lever le taux d'intérêt l'année prochaine. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a vu que l'inflation a commencé à remonter en septembre, légèrement, mais quand même, c'est dans le mauvais sens. Donc là, Madame Bullock, elle a dit que si ça continue comme ça, ça va poser des problèmes. On va devoir se poser la question, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Bon, elle n'a pas dit, c'est sûr qu'on va faire ça, mais c'est plutôt dans cette direction-là. Donc, ils vont analyser ça à chaque meeting, mais bon, pour 2025, c'est fini en tous les cas, il n'y a pas plus de meeting de la Banque centrale, en fait le prochain ça sera en février, donc il n'y a pas de meeting en janvier, donc rien va changer pendant au moins 2 mois, et donc on va pouvoir voir dans ces 2 mois-là, si ce qui se passe avec l'inflation, si ça commence à baisser de nouveau, ou si ça continue à monter. Si ça continue à monter, et ben là, il faut s'attendre à la possibilité que le taux d'inflation va monter en 2026.
Et oui, accrochez-vous parce que ça peut être intéressant ce qui va se passer en 2026. Merci Nicolas d'avoir décrypté l'actu économique pour nous cette semaine.
Merci Christophe.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
13h et bientôt 36 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français.
SBS French.
En politique australienne, l'année 2025 a été marquée par des mesures prévisibles et des résultats surprenants. Parmi ces surprises, on peut citer ces élections de mai qui ont vu le Parti travailliste remporter une victoire écrasante et la défaite de 2 chefs de parti d'opposition, Peter Dutton et Adam Bent, qui ont perdu leur siège. Reportage de SBS News. Pour les observateurs de la politique fédérale australienne, la sécurité nationale a marqué le début de l'année 2025. La publication de plus de 240 documents du cabinet datant de 2004 a ravivé les accusations selon lesquelles les services de renseignement australiens auraient placé des micros au sein du gouvernement du Timor-Leste dans le but présumé d'obtenir des informations lors des négociations du traité de la mer du Timor. En août, le gouvernement a annoncé que ASIO, le service de renseignement australien, avait déterminé que l'Iran était responsable d'au moins deux attaques antisémites contre la communauté juive d'Australie, ce qui a incité le premier ministre Anthony Albanese à annoncer une riposte ferme.
A short time ago, we informed the Iranian ambassador to Australia that he would be expelled. We have suspended operations at our embassy in Tehran and all our diplomats are now safe in a third country. I can also announce the government will legislate to list Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, the IRGC, as a terrorist organization.
Le Premier ministre a déclaré que les attaques commanditées par l'Iran visaient à saper la cohésion sociale en Australie, ce qui, selon lui, relevait de la sécurité nationale. Par ailleurs, un rapport sur l'islamophobie a souligné l'ampleur du risque que cela représente aux yeux des autorités. Ce document, rédigé par l'envoyé spécial chargé de la lutte contre l'islamophobie, Altab Malik, fait état d'une augmentation de 30% des incidents anti-musulmans depuis l'attentat du Hamas du 7 octobre.
We have seen Muslim women and children targeted. Not for what they have done, but for who they are and what they wear.
Pour Shahara Atai, co-directrice exécutive du registre de l'islamophobie, la réponse du gouvernement fédéral laissait beaucoup à désirer.
And the way that our community's suffering and plight has not been treated with the same level of concern as other communities.
Le Premier ministre Anthony Albanese, quant à lui, n'était pas d'accord.
We have strengthened Commonwealth hate crimes to criminalise threats of violence, force or property damage that target individuals or groups based upon race, religion or nationality. That applies across the board. We have been consistent.
Le gouvernement espérait vivement que les Australiens s'entendraient beaucoup mieux entre eux et il espérait également que les électeurs continueraient à lui faire confiance. Des élections fédérales ont été convoquées au mois de mai.
My fellow Australians, this morning I visited the Governor-General and Her Excellency has accepted my advice that an election be held on Saturday, 3rd of May 2025.
Ces élections ont permis au Parti travailliste non seulement de se maintenir au pouvoir, mais aussi d'obtenir un nombre record de sièges, ce qui a mis le Premier ministre de bonne humeur lors de sa visite à Marrickville dans sa circonscription le lendemain du scrutin.
So, what did you all do last night?
En revanche, le chef de l'opposition, Peter Dutton, a perdu son siège dans le Queensland et a disparu discrètement de la scène politique. Le chef des Verts, Adam Bent, a lui aussi perdu son siège à Melbourne.
To win in Melbourne, we needed to overcome Liberal, Labor and One Nation combined. And it's an Everest that we've climbed a few times now, but this time we fell just short.
Anthony Albanese n'a pas perdu de temps pour présenter son programme pour un second mandat.
The positive program we took to this election was shaped by the Australian people's priorities. And our government will dedicate the next 3 years to making a positive difference to your lives and to your future.
Cette tâche s'est avérée complexe. Le ministre de l'Éducation, Jason Clare, a tenu la promesse du Premier ministre d'instaurer une réduction de 20% des dettes liées aux prêts étudiants. Ex dès la première session du nouveau Parlement.
The average HEX debt today is about 27 grand. This will cut that debt by about $5,500.
Le gouvernement n'a toujours pas répondu aux préoccupations récurrentes de l'année 2025 concernant l'indexation des prêts qui alourdit encore la dette avant même le remboursement par le biais des impôts et le désavantage que le système X inflige aux femmes, lesquelles obtiennent leur diplôme avec une dette plus importante et au final gagnent moins que les hommes. Ces étudiants ont confié à SBS être satisfaits du changement tout en restant prudents.
I guess that is a positive, but it also, you know, it sort of raises the question what else is being done.
I think it's condescending for a generation of politicians who largely receive their education for free.
Des progrès ont également été réalisés sur des points réclamés de longue date par les associations préoccupées par les violences sexistes sur les campus universitaires où l'on recense plus de 14 000 agressions sexuelles chaque année. Un projet de loi visant à établir un code national de l'enseignement supérieur a été adopté par la Chambre des représentants en août de 2025, comme l'a indiqué la députée travailliste Carol Berry au Parlement.
This legislation will provide a pathway to justice for survivors whilst pursuing the end of gender-based violence. And institutional leaders will be expected to actively lead change. Vice chancellors and CEOs will be expected to confront these issues head-on.
Le gouvernement a également consacré l'année 2025 aux soins aux personnes âgées. On a beaucoup parlé de 2025, des longues listes d'attente pour l'aide à domicile, des modifications réglementaires visant à accroître la participation financière des personnes âgées et des résidents des établissements de soins à domicile ont fait l'objet d'intenses débats au Parlement fédéral. Le ministre des Soins aux personnes âgées, Sam Ray, a déclaré qu'il s'agissait de redonner la dignité aux Australiens âgés et de pérenniser le système.
The updated program that allows older people to stay in their homes and in their communities for as long as possible with the right level of support and care in place.
Certains sont restés sceptiques face aux arguments du ministre. L'inspectrice générale des services aux personnes âgées, Nathalie Siegel Brown, a souligné que le risque était accru pour certains Australiens de se voir privés de soins. En effet, si les changements annoncés prévoient la prise en charge par l'État des coûts des soins infirmiers et de la physiothérapie, les résidents devront assumer une partie des frais liés aux services dits d'aide à l'autonomie, tels que la toilette et le transport.
My concern is that those with the least means in our community may have to forsake the most under the model of co-payments. And indeed, that actually might push people earlier into residential care, which costs the taxpayer more. I do feel that that needs to be revisited.
La pression du coût de la vie se fait sentir dans tous les secteurs, notamment en ce qui concerne l'accessibilité au logement. En 2025, la politique fédérale a été au cœur du débat sur les solutions à apporter à ce problème. Alors que de nombreux rapports soulignent la gravité de la situation. La ministre du Logement, Claire O'Neill, a déclaré que le gouvernement s'efforçait d'y remédier en encourageant l'augmentation de l'offre et en mettant en place un dispositif d'apport initial de 5% pour les primo-accédants.
This policy is going to have a hugely meaningful impact for the people that choose to use it.
La mesure a été très mal accueillie par certains électeurs, notamment par la porte-parole de l'opposition en matière des finances, la sénatrice Jane Hume.
Of course, that is going to push up prices. Of course, that's going to have absolutely no effect on supply.
Alors que les Australiens s'inquiètent pour leur avenir, le gouvernement a multiplié les initiatives à l'international, cherchant tout au long de l'année 2025 à affirmer son statut de puissance moyenne sur la scène mondiale. Cela a impliqué une grande prudence lors des nombreuses annonces de Donald Trump, le président américain, concernant les droits de douane sur les produits australiens, comme le conseiller, le sénateur écologiste David Shoebridge.
Because it's a dangerous, erratic regime in Washington, and we need to respond to it with maturity and independence.
Cela impliquait également des négociations diplomatiques et persistantes, l'administration Trump examinant si elle devait maintenir le traité AUKUS conclu entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie sous la présidence de Joe Biden, un homme que le président Trump n'appréciait guère. L'Australie a finalement reçu la confirmation que tout était en ordre sur ce point. Face à l'instabilité de la nouvelle direction à Washington, la situation au Moyen-Orient est tout aussi tendue, faisant régulièrement la une des journaux avec des manifestations et des rassemblements, témoignant de la profonde émotion de l'opinion publique australienne concernant les événements de Gaza. Malgré les objections de l'opposition qui estimait que la reconnaissance de l'État palestinien reviendrait a récompensé les actions du Hamas le 7 octobre. Anthony Albanese a pris la parole à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre pour réaffirmer cette position.
The Commonwealth of Australia recognises the state of Palestine. We have had in Australia a long-term position on a bipartisan basis of two states. One of those states is, of course, Israel. The other, of course, is Palestine.
Après la clôture de l'Assemblée générale, un accord de cessez-le-feu a finalement été conclu entre le Hamas et Israël, accord salué par l'Australie. Cependant, la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré en novembre, lors d'une allocution prononcée devant l'Institut australien des affaires internationales, que les efforts diplomatiques du pays se concentraient sur des enjeux plus internes.
Now, Australia will always make our contribution as part of multilateral efforts to protect civilians and uphold international law, because we know living in peace shouldn't be contingent on where you were born. Having said that, our overriding responsibility as a middle power of the Indo-Pacific is to support peace, stability and prosperity in this region. The Indo-Pacific is where the world's future is most being shaped. It is where we have most on the line. It is where we can have the most effect.
En matière de changement climatique, l'Australie a peut-être cherché à se démarquer le plus. Cela s'est particulièrement manifesté lors de sa candidature à l'organisation de la COP31 où elle était en compétition avec la Turquie. Le ministre de l'Environnement, Murray Watt, a déclaré sur Sky News que l'Australie semblait bien placée pour organiser l'événement.
Unfortunately, we haven't yet seen Turkey withdraw its bid, despite the fact that I don't think there's a single other country around the world who supports their bid. Whereas Australia has huge support, particularly given we are looking to host this bid in conjunction with countries in the Pacific as well.
Mais la Turquie s'est engagée de facto à opposer son veto à la candidature australienne. Le représentant australien aux négociations de la COP, le ministre du changement climatique Chris Bowen, a déclaré qu'un compromis de principe avait donc été trouvé. Le sommet se tiendra à Antalya et l'Australie se verra confier la présidence des négociations, rôle qu'il assumera. Ce résultat a été qualifié de désastre diplomatique pour le gouvernement qui a déployé des efforts considérables et très probablement dépensé des dizaines de millions de dollars pour promouvoir l'événement. Le Premier ministre affirme cependant que la situation ne devrait pas être perçue ainsi, notamment par leurs alliés de la région Indo-Pacifique.
We consulted our Pacific neighbors. I spoke with Prime Minister Marape. I spoke with Prime Minister Rambuka of Fiji. And what we did, we've come up with an outstanding result.
Le changement climatique est également au cœur des débats politiques nationaux. Chris Bowen a confirmé que l'objectif de neutralité carbone de l'Australie serait de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à un niveau entre 62 et 70% de celui de 2005 afin de respecter ses engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris.
It's ambitious by international standards compared to like-minded similar economies. It is ambitious in terms of halving emissions from today, but it's achievable. The target's got to be two things, ambitious and achievable.
Par ailleurs, c'est bien le zéro émission nette qui est au cœur des difficultés rencontrées par le Parti national et le Parti libéral depuis les élections, comme l'a clairement indiqué le chef des nationaux, David Littleproud.
We will not be re-entering a coalition agreement with the Liberal Party after this election. The National Party will sit alone on a principled basis.
Heureusement, aussi vite que le divorce a été annoncé, la chef du Parti libéral, Susan Lee, a pu l'annuler.
Today, David and I have reached agreement formally to reform the coalition and we can announce our new coalition shadow ministry.
Les nationaux ont finalement voté pour retirer l'objectif de neutralité carbone de leur programme politique et les libéraux ont emboîté le pas. Peu après. Les deux chefs ont ensuite affiché leur unité lors d'une conférence de presse pour présenter le programme énergétique de la coalition. Le chef des nationaux a notamment indiqué que ce programme prévoyait une augmentation de la production d'énergie fossile à court terme.
What you do by expanding it, you actually put that downward pressure of putting it right across all sources of energy. And what it also does is it buys the time for us to transition into particularly things like nuclear energy.
Mais il semblait que seule la coalition pensait que c'était une bonne idée, y compris le ministre Bowen, qui a laissé entendre que les impératifs politiques primaient sur les priorités en matière de changement climatique.
Clearly the National Party is calling the shots and Barnaby Joyce is calling the shots within the National Party, and that is sad for Australia because it means we don't have an opposition fully engaged in the great challenges and opportunities of our time. They just don't get it when it comes to the need for action on climate change, that they continue to dispute the science and they continue to dispute the economics, that renewables are the cheapest form of energy.
L'année 2025 s'est achevée avec l'entrée en vigueur de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Cette mesure a suscité de nombreux débats quant à son opportunité, mais la ministre Annika Wells affirme que la grande majorité des élèves avec lesquels elle s'est entretenue sont satisfaits et reconnaissants de sa mise en place.
These social media laws are world leading, and when we went to the UN several weeks ago, it was significant how many other countries wanted to engage with us about the how and the why of what we are doing. These laws will not mean perfection, but they will mean a significant and meaningful difference, and they will spread cultural change across 13 to 16 year olds in this country.
Ce reportage de SBS News de Deborah Croke a été présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et en fin d'émission, un rappel des titres du journal de ce jeudi. Les militants anti-nucléaires s'inquiètent fortement de la possibilité que l'Australie accueille prochainement des armes nucléaires transportées par des installations militaires américaines dans le cadre de l'accord AUKUS. Le ministre australien de la Défense, Richard Miles, et son homologue britannique, John Healey, se sont rendus au Pentagone, aux États-Unis, pour la première réunion ministérielle AUKUS avec le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth. Et puis les ressortissants australiens se rendant aux États-Unis devront divulguer leur historique d'activité sur les réseaux sociaux des 5 dernières années, conformément à un nouveau plan de la Maison-Blanche. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Belle journée. À bientôt sur SBS French. D'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.